Sud Vendée Sport, Antoine Judith.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Sud Vendée Sport, un Sud Vendée Sport particulier aujourd'hui, grandement consacré notamment à la polémique du moment dans le football vendéen, le Vendée Football Club. On en parlera évidemment avec un invité exceptionnel, Jean-Jacques Gazot, président du district de Vendée, nous donnera son avis donc sur la volonté du club de La Roche-sur-Yon de changer de nom pour la saison prochaine. Avec moi pour en parler, on a Nico et Christian. Salut les gars.
Salut Antoine.
Avec également toujours notre traditionnelle page consacrée au Vendée Globe, avec en invité Justine Métro et également Sébastien Simon, deux skippers qui vont participer au Vendée Globe. C'est durant 7 mois désormais, mais sans plus tarder, donc on va tout de suite parler de cette histoire autour du Vendée Football Club.
Sud Vendée Sport, l'actu de la semaine.
Bonjour Jean-Jacques Gazot, vous êtes président du district de Vendée et cela fait maintenant environ un mois que nous avons appris une chose par voie de communiqué. Le club de La Roche Vendée Football veut changer de nom, veut désormais s'appeler Vendée Football Club. Ils expliquaient il y a un mois dans un communiqué que c'était le bon moment pour fédérer un projet autour de tous les Vendéens, avec notamment comme ambition de créer une SAS professionnelle. Alors on est un mois après ce communiqué, tout d'abord Monsieur Gazot, dans quelle relation vous êtes en ce moment avec le club, entre le district et le club de La Roche-Vendée Football?
Mais dans quelle relation? C'est-à-dire comme vous et bon nombre de Vendéens, donc on a découvert effectivement dans la presse que La Roche-Vendée Football voulait effectivement changer de nom, même si je dois avouer que j'avais rencontré M. Chabot qui m'avait parlé, non pas de son projet, mais de sa décision, hein, puisqu'il s'agissait d'une décision, donc voilà. Donc actuellement, bon, si vous voulez, bon, il y a eu un certain nombre d'échanges entre le club et le district, et on a convenu d'une réunion donc collective avec les autres clubs vendéens qui va avoir lieu donc mardi prochain.
Il a fallu donc digérer la nouvelle avant ensuite d'essayer, pourquoi pas, de construire ensemble ce projet.
Bah, et digérer la nouvelle, bon, je veux dire, autant sur le fond, bon nombre de Vendéens et bon nombre de clubs, et moi-même j'ai eu l'occasion de le dire lors de dernières assemblées générales du district, je veux dire, la nécessité d'avoir un club porteur en Vendée doit exister. La seule chose qu'on peut reprocher actuellement, c'est la forme. Hein, ça ne peut se faire que dans la concertation donc entre les clubs actuellement évoluant au niveau national, entre les collectivités aussi, et puis le monde économique. On ne peut pas comme ça faire fi d'une organisation qui existe.
Et puis évidemment la question du timing, c'est vrai que ce communiqué qui était sorti, on le rappelle, le lendemain du derby de National 2 entre les deux clubs vendéens, entre la Roche-sur-Yon et les Herbiers, c'est ça aussi peut-être qui a pu irriter un peu tout le monde.
Oui, sûrement, si j'en crois les commentaires, effectivement, le fait que ça sorte le lendemain de la victoire de La Roche aux Herbiers, bon, ça a effectivement rajouté un petit peu de tension au projet, quoi.
Alors, Christophe Chabot s'est exprimé dans Ouest France notamment en expliquant qu'il y avait une petite dizaine de clubs qui s'étaient opposés au projet, que justement vous, Jean-Jacques Gazot, vous n'aviez pas à être le président de cette dizaine de clubs, mais de tout le district. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre?
Ben, j'ai rien envie de rajouter à cela. Je veux dire, le président du district, effectivement, j'ai lu dans la presse que M. Chabot pensait que j'en faisais une affaire personnelle. Bon, c'est pas du tout une affaire personnelle. Simplement, président du district, je suis président de l'ensemble des clubs vendéens, l'ensemble des footballeurs, donc je dois veiller effectivement à ce qu'il y ait une certaine unité sur le territoire. La forme choisie par M. Chabot, je considère actuellement, quoi qu'on en dise, que ça va à l'encontre justement de cette unité, puisque c'est au contraire divisé.
Et justement, par rapport aux autres, entre guillemets, gros clubs vendéens qui sont aujourd'hui en National 2, en National 3, quelles ont pu être les différentes réactions des présidents?
Ben, les présidents ne se sont pas exprimés dans la presse. Moi, j'ai eu l'occasion de les avoir en direct. Bon, tous sont unanimes pour condamner la méthode.
Et sur le projet, alors sans parler maintenant de la méthode, le projet d'avoir un club vendéen qui à terme, pourquoi pas, serait professionnel, ça en revanche, le district n'est absolument pas opposé?
Non, le district n'est pas opposé, je l'ai toujours dit, mais à condition que ça soit une réflexion collective et que ça corresponde aussi à un projet, enfin encore une fois, un projet collectif, que ce soit un projet mûri, qui ne va pas simplement au niveau d'une équipe première, mais aussi qui passe par la formation des jeunes. Alors, sans parler de créer un centre de formation, mais qu'on puisse avoir une assise relativement intéressante au niveau des jeunes. La Vendée est une terre de football, quand on voit le nombre de licenciés et qui n'arrête pas d'augmenter, quand on voit l'engouement qu'il peut y avoir autour des stades, je veux dire, la Vendée est une terre de football, il mériterait certainement d'avoir une équipe professionnelle. Bon, ça, simplement, c'est pas un projet qui se décrète comme ça en claquant des doigts un matin, c'est une réflexion d'analyse et en tout cas qui doit associer toutes les parties prenantes.
Okay, on a évidemment une pensée aussi pour le département de la Vendée qui doit avoir un rôle important à jouer dans cette histoire puisque le département, on rappelle, sponsorise de nombreux clubs hein, vendéens. Est-ce que vous êtes en relation avec Alain Leboeuf, notamment le président du département?
Oui, bien sûr, j'ai eu l'occasion de rencontrer Alain Leboeuf à plusieurs reprises, comme j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer Christophe Chabot. Bon, voilà. Maintenant, le département, sa position, elle est claire. Je veux dire, pas d'ingérence. Si demain, il y a effectivement un projet collectif qui se dégage, eh bien, à ce moment-là, effectivement, on s'assoit et puis on discute et on voit comment ça peut se faire. Mais pour l'instant, le conseil départemental ne veut pas, et c'est tout à fait légitime, faire d'ingérence dans ces positions.
Bon, il y a des réunions qui sont prévues. On imagine aussi que, malgré tout, il y a une volonté aussi d'apaisement, j'ai envie de dire, de la part de toutes les parties.
Oui, en ce qui me concerne, en tout cas, oui, il y a une volonté d'apaisement. Mais bon, après, je n'irai pas contre la volonté des clubs. Mais bon, il y a une volonté d'apaisement. Je veux dire, on a tous notre énergie, on doit la consacrer à plein d'autres projets. Donc voilà, à un moment donné, il va falloir effectivement que ça s'arrête et que la raison l'emporte.
Mais merci beaucoup. Jean-Jacques Gazon, on rappelle que vous êtes président du district de Vendée de football. Merci beaucoup.
Merci.
Sud Vendée Sport, l'actu de la semaine.
Alors ça fait réagir, ça fait beaucoup réagir hein, évidemment cette histoire justement autour du Vendée Football Club. On a eu justement les mots là, de la part du président du district, Jean-Jacques Gazot. Bon déjà j'aimerais avoir un petit peu votre ressenti. Alors Nicolas, on rappelle quand même que tu es notamment éducateur pour le club de la Châtaigneraie. Alors tu viens pas là porter la parole de la Châtaigneraie, tu viens là donner ton avis de chroniqueur. C'est quand même un projet déjà... Le président du district l'a dit, au niveau du timing quand même, on a eu un petit peu l'impression, et c'est le cas notamment de beaucoup de monde dans le district, que ça a été fait dans le dos de tout le monde.
Bah, comme tu l'as bien répété aussi sur ta question, c'est qu'aujourd'hui, ça a été sorti un lendemain de match de National 2 entre les Herbiers et La Roche-sur-Yon. Ça a surpris tout le monde. Et en fait, dans le timing, on ne comprend pas ce que recherche actuellement La Roche-sur-Yon ou ce Vendée Football Club. C'est-à-dire que quelle est la démarche d'avoir un club professionnel ici en Vendée? Oui, ça c'est quasi obligatoire. Et vu les infrastructures, il n'y a aucun problème, mais pourquoi comme ça, et quelle démarche a été faite et quel projet a été réalisé? Je trouve que ça fait plutôt un effet d'une bombe en fait sur le foot vendéen, et sans que personne n'y s'y attende, tout simplement.
Et vis-à-vis des Herbiers notamment, qui est un club quand même historique, le VHF notamment récemment hein, évidemment, qui est le club qui a porté le plus haut les valeurs de la Vendée récemment dans le football national, et puis tous les clubs vendéens de National 3, puisqu'ils sont très nombreux, le Poiré, il y a Chalands, Fontenay, la Châtaigneraie, j'en ai oublié, les Sables FCOC, tous ces clubs-là, au niveau national, justement, qui se disent « Attendez, si La Roche polarise tous les meilleurs joueurs du département, nous, qu'est-ce qui va nous rester ?» Et je pense qu'il y a une vraie inquiétude qui se crée vis-à-vis de ça.
C'est surtout, en fait, les objectifs qu'on a à se fixer. Oui, pourquoi pas avoir un club professionnel et puis envoyer nos meilleurs joueurs ou ceux qui sortent de ce système et qui performent, au lieu de les envoyer peut-être dans les centres de formation à Nantes, à Lorient, à Niort ou peu importe, les envoyer dans un club vendéen pour qu'ils performent avec une équipe professionnelle. Ça me convient tout à fait. Enfin, ça, c'est quelque chose de représentatif. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que La Roche Vendée Football est légitime à accueillir ce projet-là? Certes, ils ont des équipes en nationale, en équipe jeune, mais tout le monde essaye de performer dans ces catégories et dans ces clubs pour aujourd'hui offrir la meilleure condition pour tous nos jeunes. On a, je pense, aujourd'hui, pas assez de joueurs capables de jouer en National 2 ou National 1 ou Ligue 2 dans le futur, Vendée 1, je parle. Donc,
oui, mais il n'y aurait pas que. Ce serait une partie du projet.
Donc, il faut aller chercher des joueurs ailleurs.
Eh ben, c'est l'intérêt d'un club professionnel, aujourd'hui.
C'est l'intérêt d'un club professionnel.
D'abord, c'est évident que on n'est pas la Real Sociedad ou l'Athletic Bilbao qui a que des clubs, que des joueurs, pardon, qui viennent du cru. Ce serait créer un vrai club professionnel avec une identité vendéenne. Et par exemple, un petit peu comme le FC Nantes, d'avoir une, alors c'est différent parce que le FC Nantes est en Ligue 1, mais d'avoir une base de joueurs vendéens.
D'avoir une base de joueurs vendeurs, mais si, mais quels objectifs, quelle progression pour nos joueurs et quelle solution si le joueur il fonctionne, enfin il rentre plus dans le projet parce qu'il il performe pas, on en fait quoi? Il redescend dans les autres clubs. Et donc en fait les autres clubs à quoi ils vont servir, à la préformation pour les envoyer dans ce Vendée Football Club? C'est la question que je pose.
Et eh ben alors, c'est intéressant justement, on va rebondir dessus, mais d'abord Christian, quand même, j'aimerais bien avoir ton ressenti aussi là-dessus, puisque Christian rappelle que tu n'es pas originaire de Vendée, donc que tu as un regard aussi un petit peu extérieur sur ce sujet qui, comme tu peux le voir, fait réagir partout dans le département. On parlait en antenne presque de guerre de clochers, alors là c'est bon, un peu plus grand, on va dire des guerres de cathédrale, mais ça reste quand même quelque chose qui est assez important quand on dit... dans un communiqué, quand on se revendique d'une identité, en l'occurrence La Roche qui se revendique de l'identité vendéenne.
Oui, ce que j'entends, en effet, même au travers des propos qui sont tenus là par Nicolas, par le président de district, c'est que j'ai bien entendu que le mot méthode était peut-être le point de difficulté majeure en fait, par rapport à ce qui se passe. Et j'ai envie de dire, vous avez aussi tout dit là maintenant, c'est-à-dire que le recrutement des jeunes se passera par la région, mais aussi par d'autres environnements. C'est ce qui se passe peut-être aussi dans des clubs, on va dire historiques, dans le nord avec Lens, Lille, parce que là je viens de cette région, mais aussi Le Havre qui établit des passerelles avec les clubs locaux, et puis après avec des clubs comme Évreux pour aller un petit peu plus loin, puisque là c'est des connexions avec Mathieu Bodmer. Après, sur ce qui se passe du coup ici en Vendée, je pense que ce qui cristallise, c'est plutôt l'effet de prise de pouvoir. Ce que j'entends, oui. Et pourquoi
une sorte de coup d'état presque, en fait.
C'est ça, ouais. Et après, justement, avec le recul que j'en ai, je me dis aussi pourquoi pas. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. Si on attend toujours que la concertation pour y arriver, et je suis pas l'avocat en fait du club de La Roche. On peut très vite, justement, autour des querelles de clochers, attendre qu'il y ait un système qui soit complètement parfait, alors que parfois, on va dire rentrer dans la position un peu plus forte de alors je dis pas je veux imposer, parce que là on entend ça, je pense que c'est ce qui cristallise, c'est vraiment fait d'imposer, d'accord, mais je veux monter un club pro, et l'effet d'annonce qui a été annoncé par le club de La Roche, qui peut avoir donc du coup ce sentiment de déflagration, peut à mon sens aussi être porteur quelque part de bonnes nouvelles pour le football vendéen. Et moi je retiens plus ça, c'est-à-dire que c'est positif dans le sens où alors encore une fois ça reste que mon avis
bien
extérieur.
Bien sûr, on est là pour donner notre avis aussi,
parce que je crois que justement c'est ce qui va amener aussi des clubs comme par exemple La Châtaigneraie, Fontenay, Chaland, justement à défendre tout simplement leurs valeurs, leur club, et à leur mettre un petit peu au goût du jour, et de vouloir porter un projet de club vendéen qui serait franchement en Ligue 2 un club formidable.
J'ai jamais dit qu'il fallait pas de club professionnel.
Ouais, hein. Même le président de district le dit.
La seule chose, c'est en fait, on a un communiqué de presse qui tombe un samedi sans savoir ce qui s'en trame derrière. Alors après, peut-être que ça ne nous regarde pas non plus pour l'instant. Mais aujourd'hui, on a un communiqué de presse qui tombe. Mais en général, qu'est-ce qu'on va faire de nos joueurs? Qu'est-ce qui va se passer après? Pourquoi ce club? Pourquoi La Roche? Pourquoi voilà, c'est toutes ces questions qu'on va se poser après par la suite. Maintenant, effectivement, il faut qu'on arrive à tirer vers le haut tous ces clubs. Quand on voit la sélection de Vendée aujourd'hui en U16 au tournoi de Montaigu, on a une sélection de Vendée. Donc il y a quelque chose qui se passe. C'est les meilleurs joueurs qui vont faire ce tournoi de Vendée. Donc il y a des choses qui se trament, il y a des choses qui se font, et ils performent en plus cette sélection de Vendée.
On sent que le côté formation évidemment te touche particulièrement puisque tu es éducateur aussi, mais j'ai envie de te dire une chose, c'est que si le club de La Roche, qui a aujourd'hui par exemple déjà des joueurs en championnat national, d'un certain côté déjà polarise certains des meilleurs joueurs qui, dans toutes les équipes régionales, pour expliquer pour ceux qui ne sont pas familiers avec les niveaux chez les jeunes, on a le niveau régional, c'est-à-dire meilleurs joueurs régionaux, et derrière vous avez une étape au-dessus, c'est le niveau national, là vous avez les clubs pro. Et finalement, si tu as des joueurs qui sont capables d'aller dans ces clubs-là, tu ne vas pas non plus les empêcher. Et donc, notamment en l'occurrence, aujourd'hui, c'est La Roche qui a ce club-là.
J'ai jamais empêché un joueur de performer, d'aller à un club, et au contraire, c'est tant mieux pour lui. Maintenant, moi, c'est le projet global. Et les clubs aux alentours, les clubs aux alentours, tous les clubs qui sont en National 3 aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils deviennent et qu'est-ce qu'on doit faire pour alimenter ce club aujourd'hui? Et ça, ça manque pour moi de visibilité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on fait de la préfo, de la préformation, et puis qu'on envoie, on estime qu'il faut travailler avec le Vendée Football Club et d'envoyer nos meilleurs joueurs. C'est la visibilité du projet qui me perturbe.
Alors, il faut savoir aussi que le projet de fusion entre deux clubs autour de La Roche-sur-Yon est un vieux serpent de mer, ça date. On a eu déjà une histoire avec le Poiré sur Vie qui a eu pendant plusieurs saisons même a été bien classé en national, au niveau national, le Poiré sur Vie qui était même passé pas loin de la montée en Ligue 2, qui a eu aussi connu des galères financières et plusieurs rétrogradations administratives. On sait qu'il y a aussi une petite guerre entre La Roche VF et La Roche SO, les deux grands clubs de La Roche qui sont aujourd'hui au niveau national 2 pour La Roche VF et régional 1 pour La Roche SO. On sait qu'ils ont du mal à déjà créer un club dans une ville, pourtant ce serait la volonté du maire Luc Bouard. Donc c'est vrai que se revendiquer comme ça Vendée Football Club, ça peut faire réagir et ça s'entend complètement. Maintenant, là où le timing, on parlait de le timing qui était mauvais, là où le timing peut les sauver, c'est si le club de La Roche monte en fin de saison en national, puisque ils pourront arriver sur la table en disant bah regardez, nous on est en national, tous les autres clubs sont en dessous. Donc nous, on a cette légitimité. Et puis il y a évidemment quelque chose qui est logique, c'est le stade. Aujourd'hui, le stade de La Roche, 10 000 places, c'est une infrastructure capable d'accueillir du football professionnel.
Il faut que, si ce projet aboutisse, il faut que La Roche arrive à fédérer autour d'eux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'ils fédèrent? Je ne sais pas. C'est une question que je laisse en suspens. Mais aujourd'hui, il faut arriver à fédérer tous les clubs pour acquérir ce projet. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on a un panel de clubs qui souhaitent adhérer à ce projet-là. Donc, oui, les infrastructures, oui, la montée en national. Il ne faut pas oublier qu'ils étaient en National 3 l'année dernière, qu'ils sont montés.
Bon, il y a eu beaucoup d'investissements, notamment fait par Christophe Chabot, qui dirigeant d'Akena Véranda, voilà, qui est vraiment l'un des gros sponsors du club de La Roche.
Et puis, toujours en termes de sponsoring et de partenariat, aujourd'hui, la Vendée, tu le disais très bien dans l'interview, donne à tous les clubs. Donc, ça veut dire que là, on va peut-être recentrer sur un seul club. Qu'est-ce qui va rester pour les autres clubs? Comment les autres clubs vont devoir vivre? Est-ce qu'il faudra aller chercher plus de subventions? Est-ce que ça va permettre aussi de permettre à cause de l'argent de redescendre d'un niveau, deux niveaux? Voilà. Ça va être tout ça, en fait, qui, moi, ça manque clairement de visibilité, en fait, et de lisibilité sur la structure. Ils doivent travailler en interne. Enfin, Jean-Jacques Gazot l'a dit, ils vont avoir des réunions, donc on va en savoir un peu plus. Mais en fait, de balancer ça comme ça, un samedi matin,
un lendemain de match, tout le monde se serrait la main et il y avait
même des photos sur les réseaux sociaux, hein, faut pas l'oublier, hein.
Et peut-être que certains d'entre eux n'étaient pas au courant de ce qui se tramait, c'est ça qui est complètement dingue. L'investissement de la Vendée, quand même, il faut le préciser, parce que le département est parmi les gros sponsors de tous les clubs de National 2, National 3, certains même de Régional 1, mais avec une contrepartie par contre, c'est qu'il doit impérativement y avoir le mot Vendée dans le nom du club. Vous avez Vendée Fontenay Foot, vous avez la Châtaigneraie, c'est Association Sportive Châtaigneraie Vendée Football, enfin voilà, c'est comme ça, le VHF. Donc la Vendée, c'est sa contrepartie. Maintenant, si la Vendée dit, on va pas aller voir, on va se recentrer sur un club, et derrière, en termes de sponsoring, les subventions qui sont quand même importantes de la part du département pour ces clubs-là, c'est terminé. Là-dessus, sur l'aspect financier, ça fait partie des questions, justement, qui peuvent et qui doivent faire réagir. Mais bon, il y a aussi un club, forcément, qui est plus légitime à réagir que les autres, c'est celui des Herbiers, puisque aujourd'hui, les deux sont dans la course à la montée, même si les Herbiers ont un petit cran de retard sur La Roche. Mais aujourd'hui, tu parlais d'identité notamment, et dans le Bocage surtout, et dans le Sud-Vendée notamment, on s'identifie beaucoup plus au club des Herbiers qu'au club de La Roche.
C'est ce que je te dis, c'est de réunir. Il faut que La Roche arrive à réunir, et aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'ils soient en capacité de réunir. En termes d'image, après voilà, ça va se faire avec le temps, ça va se faire avec les opportunités, ça va se faire avec que tout le monde mette un petit peu d'égoïsme de club sous son tapis de maison, et puis pour avancer ensemble. Il y a que comme ça qu'ici. Après, en Vendée, on le sait très bien, les gardes de clocher sont énormes en termes de football, et on aime bien lutter avec ces clubs, donc à voir par la suite ce que ça va donner.
En sachant donc que La Roche aussi entre guillemets, alors, légitimité, je ne sais pas, mais dans les années 80, fin des années 80, on avait le FC Lyonnais qui est, on va dire, le parent de aujourd'hui La Roche Vendée Football, et puis l'AEPB Bourg-sous-La Roche, qui étaient deux clubs vendéens de La Roche-sur-Yon qui évoluaient en Ligue 2. On fait le parallèle parce que c'est intéressant, Christian, encore une fois, toi aussi, tu as un regard un petit peu extérieur à nous apporter, notamment spécialisé dans le basket. On a des clubs, alors là, pour le coup, c'était des fusions, mais des clubs, et notamment dans le nord de la France, qui était juste à côté et qui pendant plusieurs années ont ramé chacun de leur côté avant d'unir leurs forces.
Alors non, justement, ils n'ont pas uni leurs forces. C'est ça qui est extraordinaire.
Ils n'ont pas uni leurs forces.
Non, il y avait un club. Alors par exemple, je vais prendre l'exemple.
Je peux vous donner un exemple très concret.
Alors Boulogne-sur-Mer. En plus, j'ai appartenu au club aussi au moment où il y a eu les annonces à l'époque en régional pour justement monter un club avec une issue professionnelle avec l'arrivée d'un ancien international français, Olivier Bourguin, qui arrivait comme coach, donc avec des montées successives et donc justement de l'argent qui a été placé au sein du club. Donc le SOM Boulogne et le Portel donc qui touche hein, limitrophe au club, le SSM Le Portel, où les deux clubs se sont toujours un petit peu tirés justement dans les pattes avec le serpent de mer de la fusion potentielle. Et finalement, l'annonce du SOM Boulogne a fait que les deux clubs sont montés jusqu'en Pro A. Ils se sont suivis, donc alors, ils avaient un objectif de Pro B. Ils sont montés donc jusqu'au plus haut niveau à un certain moment. Et avec encore aujourd'hui, finalement, donc le SOM Boulogne qui était le club phare avec on va dire, l'argent en ligne de compte qui maintenant appartient à la 3e division française en national, et le Portel qui depuis est toujours resté en Pro A, donc avec on va dire le plus petit club qui a survécu au travers de ces années, donc de ces 10 à 15 d'années de bataille on va dire en interne avec la fusion. On a aussi Lille, Denain, Orchi, tous ces clubs un petit peu, donc à un moment on a parlé aussi Lille avec Gravelines, avec l'arrivée de certaines salles. En fait, il y a une émulation qui se crée. Mmh. Je pense qu'en fait, en Vendée, c'est ce qui peut se passer. Alors moi, je le vois au travers du basket.
Bien sûr.
C'est ce que j'entends, en fait. Et quelque part, pour le football vendéen, il y a une chose qui pourrait me faire plaisir, justement, quand tu dis un petit peu mettre les égos de côté, peut-être pour réussir à faire quelque chose, c'est que je vois, au final, il y a eu le Poiré Survie, il y a eu les Herbiers,
il
y a eu Luçon, effectivement, qui a disparu alors qu'il y a eu de l'argent qui avait été remis justement pour être maintenu au niveau national et qu'au final, ces clubs ont dû raisonnablement revenir un petit cran en arrière alors qu'en fait, il y a toutes les raisons pour essayer de faire pousser plutôt vers le haut. Et la locomotive, peut-être La Roche peut faire office de cette locomotive-là.
Luçon, justement, qui avait déjà été impliqué dans un projet de fusion avec La Roche en 2015. Et c'est intéressant puisque déjà en 2015 à La Roche, on a Christophe Chabot qui est aux manettes. Alors il avait fait plusieurs mandats à la tête de président. Mais à ce moment-là, en 2015, on nous annonce déjà le Vendée Football Club, fusion entre La Roche et Luçon. Luçon qui à l'époque était en national. Et l'idée déjà à l'époque était de centraliser eh bien, ce club-là à terme, de l'appeler Vendée Football Club et de le centraliser au stade Henri Desgranges de La Roche-sur-Yon. Et ça fait 9 ans aujourd'hui.
Mais on le sent, excuse-moi, mais on le sent que Monsieur Chabot il a envie de d'associer aussi peut-être ses entreprises aussi avec cette image avec le football vendéen, et c'est une très bonne raison. Mais on le sent qu'il a envie de créer quelque chose, mais il le fait peut-être pas de la façon qu'il devrait le faire. Aujourd'hui, Jean-Jacques Gazot l'a très bien dit tout à l'heure, ils ont été mis au courant que par le communiqué de presse. Ça a été fait ça a été fait comme ça. On peut pas créer, enfin. Pour moi, on ne peut pas créer quelque chose sans en communiquer les instances, sans en communiquer aux autres clubs, et de créer une gouvernance, un conseil, quelque chose qui permette en fait de dire « Allez, on y va tous ensemble » et réussir à fédérer. C'est ce qui manque aujourd'hui actuellement.
Christophe Chabot, dans son interview à Ouest France, explique notamment qu'on est aujourd'hui au bout d'un modèle. Il nous dit, que ce soit les Herbiers, le Poiré ou La Roche, si un de nous réussit à monter en National, qu'est-ce qui va se passer? Tu végètes en milieu de tableau et puis 3-4 ans après, tu redescends en National 2. Est-ce que c'est interdit d'avoir plus d'ambition que ça? Non. Et il dit que le Vendée Football Club a pour ambition d'être en National d'ici la saison 2025-2026. Il y a cette volonté, en finale, à travers, il nous parle de national, mais cette volonté vraiment de voir plus haut, se voir le côté professionnel. Et c'est là aujourd'hui tout l'enjeu, puisque le football n'est pas une entreprise. Le football a ses incertitudes. On a vu déjà que La Roche, au début, il y a 2-3 ans, au moment du Covid, quand ils ont essayé de relancer un projet avec beaucoup d'argent, ils ont mis 3 saisons à passer de la National 3 à la National 2, et ils ont eu beaucoup de mal. Comme quoi, l'argent ne fait pas tout.
Alors, ce qui serait criminel, justement, c'est qu'il y ait une impréparation complète suite à cet effet d'annonce. Ça, c'est vrai que si depuis 9 ans, on va dire, on a à peu près le même type de discours, mais que derrière, le dossier est vide, là, je comprends l'inquiétude des autres clubs vendéens de la façon dont ça peut se passer. Ça, c'est clair. Après, moi, j'imagine qu'effectivement, quand on est dans le monde de l'entreprise, et j'entends un discours aussi un peu de la logique économique qui veut être dans une forme vraiment de prise de position, y compris en face des élus, justement, donc des élus des districts, des ligues, etc. Voilà, j'ose espérer que derrière, effectivement, il n'y ait pas une impréparation complète du dossier, que ça reste vide après ce cycle de 9 ans entre Luçon et ce qui se passe là maintenant. Donc après, à voir comment ça va être concerté au vu des instances et des autres clubs.
Mais moi, j'aime plutôt son discours. Je leur dis aujourd'hui qu'un club professionnel en Vendée, ça ne peut que apporter à la Vendée. Maintenant, c'est attention, de peut-être pas le faire tout seul, et plusieurs clubs, que ce soit en district, région ou nation, qui travaillent très bien. Et donc, peut-être s'en informer, se renseigner et d'en discuter avec tout le monde.
Alors, si on résume, la méthode, déjà, on est tous d'accord pour dire que la méthode n'était pas bonne et que le timing, pas vraiment. Que ce projet d'avoir un club vendéen professionnel, il est intéressant, mais qu'il ne doit pas se faire au détriment des autres clubs vendéens.
C'est complètement ça. Tu as très bien résumé. J'espère que si Monsieur Chabot nous écoute, tu as donné les clés du camion pour qu'il puisse conduire ce projet jusqu'au bout. Et vu qu'ils vont se rencontrer avec Monsieur Gazo demain pour une réunion, peut-être que tout ce qu'on vient de dire va tomber à l'eau et que ça, ils vont grandir, ils vont bien être sûr, main dans la main pour un projet ensemble.
En tout cas, vous l'avez compris, ça fait beaucoup parler, ça fait beaucoup réagir, et évidemment qu'on va suivre ça avec attention dans cette fin de saison, puisqu'il y a aussi le côté sportif. C'est vrai qu'il y a La Roche et les Herbiers en National 2, on leur souhaite le meilleur pour cette fin de saison. En tout cas, c'est vrai que si La Roche venait à monter en National dès la fin de saison, ce serait un petit peu le gros coup réalisé par le club lyonnais qui arriverait de suite à fédérer plus facilement. On va rester au niveau du football et du football amateur avec un livre génial intitulé « Un siècle de football en Vendée » écrit par Mathieu Deniaud, un livre qui raconte la petite et la grande histoire du foot vendéen. Nicolas, tu l'as rencontré il y a quelques jours pour l'interviewer, tout simplement. C'est l'histoire de nos clubs qu'il raconte à travers son livre, et c'est ce qui est assez génial. On va l'écouter, Mathieu Deniaud, au micro de Nicolas. C'était il y a quelques jours.
Alors, ça a démarré pendant le premier confinement en 2020, où j'avais un peu plus de temps libre et j'avais fait des recherches sur mon club. Et j'ai voulu élargir sur les clubs alentours pour savoir un peu comment le football avait démarré en Vendée et comment ça s'était mis en place, quels étaient les premiers clubs et dans quelles conditions ça s'est développé.
Alors, parlez-nous un peu de vous. Vous dites que vous avez joué au foot. Quel amateur de foot êtes-vous et où avez-vous joué surtout ?
Alors, moi, je suis originaire de Saint-James-la-Plaine, à côté de Luçon. Et donc, j'ai joué dans le club de ma commune, à Saint-James. Et ensuite, le club a fusionné avec Nallier et Mouzeuil pour former un club qui s'appelle Foot Espoir 85. Où j'ai joué assez longtemps, et depuis quelques années je suis sur La Roche-sur-Yon, donc je joue à la Jeanne d'Arc de Némy, juste à côté.
Et comment on fait donc pour récupérer un siècle d'archives en Vendée ?
Alors il y a eu deux phases de travail. La première, ça a été de collecter les données dans la presse locale, les archives des institutions comme le district de Vendée, la Ligue Atlantique autrefois, Ligue des Pays de la Loire maintenant, le journal de la Ligue Atlantique qui s'appelait Atlantic Foot, et puis aussi les sites internet spécialisés, les sites des clubs. Et puis la deuxième phase de travail, ça a été d'aller à la rencontre des clubs vendéens pour consulter leurs archives. Donc là, j'ai fait plus d'une centaine de déplacements pendant plus d'un an pour aller à la rencontre des dirigeants, recueillir leurs témoignages et puis consulter leurs archives, où souvent c'est des archives qui sont méconnues et où j'ai fait des belles découvertes.
Alors qu'est-ce qu'on va retrouver exactement dans ce livre pour le lecteur ? Est-ce que vous racontez une histoire ou tout simplement c'est plein de petites anecdotes ?
Alors en fait c'est un ouvrage chronologique, j'explique un peu ce qui s'est passé par décennie, et puis en fait il y a des histoires par club. J'ai essayé de parler d'un maximum de clubs à travers une ou deux histoires marquantes. Donc ça peut être le récit d'une épopée, ça peut être le portrait d'un dirigeant emblématique, une anecdote, une histoire insolite, ou ce genre de choses.
Et quelles ont été ces évolutions ? On les voit d'ailleurs dans votre livre, vous en parliez très bien, mais ça démarrait des créations de clubs, après les fusions, la diversité dans le football avec les clubs féminins et futsal. Voilà, c'est ça aussi, ces recherches-là, c'est ce qu'on va retrouver dans votre livre ?
Oui, c'est ça. Oui, il y a au-delà des histoires des clubs, il y a des grandes thématiques qui sont abordées. Donc, il y a des thématiques qui sont liées à l'histoire, donc la Seconde Guerre mondiale, les Trente Glorieuses, l'impact que ces faits de société, ces évolutions de la société ont pu avoir sur le football. Et puis, il y a d'autres thématiques qui sont abordées, l'arbitrage, le football féminin, le football corporatif, par exemple.
Alors, est-ce que vous avez des anecdotes qui vous ont marqué pendant ces recherches ?
Oui, il y en a eu pas mal. C'est surtout lié aux conditions de jeu, en fait, qui ont beaucoup évolué au cours du siècle. Faut savoir que dans les années 20-30, c'était vraiment très précaire dans la campagne vendéenne. Donc, faut imaginer des matchs dans des champs improvisés avec de la boue, avec pas de douche évidemment. Donc, les joueurs se lavaient dans des ruisseaux, dans des fossés. Ils se déplaçaient à vélo. Voilà, donc ça donne lieu à pas mal d'anecdotes qui se sont collectées dans l'ouvrage.
Est-ce que on le rallie avec l'histoire aussi, l'histoire vendéenne, mais la chronologie, forcément, c'était pas le même football il y a 100 ans qu'aujourd'hui.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, chaque évolution de la société a eu un impact sur le développement du sport, pas seulement le football. Je peux vous donner des exemples très concrets. Par exemple, l'accès à l'eau ou à l'électricité, forcément, a révolutionné les conditions de jeux, des vestiaires, des infrastructures. Même chose pour la démocratisation de la voiture dans les années 60, ça a révolutionné le mode de déplacement. Auparavant, donc comme je vous disais, c'était déplacement à vélo, parfois en bétaillère, en train. Donc voilà, ça. Et puis il y a d'autres impacts, par exemple plus négatifs, je pense à la guerre d'Algérie qui a eu pour conséquence donc la baisse d'effectifs dans les clubs, et certains ont dû se mettre en veille à ce moment-là.
Ça, c'est intéressant à analyser. Et puis il y a aussi ces grands événements qui se sont passés en Vendée et qui se passent toujours d'ailleurs en Vendée. Vous en parliez tout à l'heure avec les épopées en Coupe de France. Il y a aussi les joueurs pro vendéens, vous en avez quelques-uns. Il y a Philippe Biolo d'ailleurs qui parle dans votre bouquin.
Tout à fait, ouais. Donc il y a Philippe Biolo, donc qui a joué à Auxerre et à Lyon. Maxime Bossis, qui est sûrement le plus connu, qui est sorti de Saint-André-Trèsevoix et qui a joué au FC Nantes et en équipe de France. Vous avez aussi Claude Robin, dans les années 60, qui est sorti des Sables d'Olonne et qui a été champion de France avec Nantes et avec Reims. Et puis plus récemment, vous avez Jackie Perdriau, également dans les années 70-80, et Ulrich Ramé, dans les années 90-2000. Et c'est vraiment les 5 joueurs majeurs vendéens qui ont percé au plus haut niveau. Après, il y en a d'autres qui ont joué en première division ou en deuxième division qui sont aussi recensés dans l'ouvrage. Et ces 5-là, c'est vraiment les joueurs majeurs et ils ont leur portrait dans le livre.
Alors, est-ce que vous avez eu la chance de pouvoir les rencontrer ?
Alors non, j'ai échangé par téléphone avec certains d'entre eux, mais je n'ai pas eu la chance de les rencontrer.
Et on voit aussi que dans votre livre, il y a les grands événements. Je pense au Mondial Minime de Montaigu, le Foot Océane aussi, qui apporte cette notoriété au football vendéen.
Ouais, bien sûr, oui, c'est les deux événements incontournables du football vendéen. La Vendée est vraiment reconnue grâce à Foot Océane et au Mondial de Montaigu. Donc, c'était inévitable d'en parler dans l'ouvrage.
Et ça fait partie de cette évolution-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, grâce à ces événements-là, la Vendée a pris de l'importance dans le football ?
Oui, bah, surtout par rapport au Mondial, je pense qu'il y a vraiment un rayonnement international. C'est un peu, si on peut dire à l'échelle de la Vendée, il y a le Vendée Globe au niveau sportif. Au niveau du foot, c'est vraiment le Mondial de Montaigu qui permet à la Vendée d'exister en matière de football, en tout cas.
Comment vous analysez le football vendéen avec tout ce que vous avez retrouvé et recherché ?
Enfin, ce que je trouve, en tout cas, c'est d'une part, le football vendéen n'a pas eu de club majeur vraiment qui a percé au plus haut niveau, hein, hormis les deux clubs de La Roche dans les années 80, l'AEP Bourg et le FC Yonnais qui avaient joué en deuxième division. Ça a toujours été un peu un fil rouge au fil du temps, mais pour l'instant, personne n'a réussi à jouer en première division. Là, il y a un projet qui se monte sur La Roche-sur-Yon. Mais ce que je retiens moi surtout c'est que malgré toutes les difficultés qu'il y a pu y avoir au cours du siècle, il y a eu les guerres, il y a eu les difficultés matérielles, il y a eu plein de choses, le football vendéen a quand même toujours réussi à se renouveler, à se réinventer à chaque fois. Donc c'est vraiment la passion et la convivialité dans les clubs qui fait que il y a une animation qui perdure comme ça. Et je suis pas inquiet pour l'avenir, en tout cas même si disons que le football vendéen n'a pas de grandes références. C'est vraiment un football de village, un football de passionnés, et c'est ça aussi qui m'a plu dans mes recherches, c'est d'aller à la rencontre des dirigeants, un peu du football d'en bas. C'était très intéressant.
Et est-ce que c'est aussi cette convivialité, on pense souvent à la buvette après, à boire un verre après les matchs et à se retrouver entre joueurs, est-ce que ça existait depuis le début et que ça existe encore maintenant à l'heure actuelle ?
Oui, la troisième mi-temps a toujours existé. C'est vraiment, comme je vous disais, c'est un peu le côté convivial, se rassembler. Ça fait partie aussi Là, l'événement du week-end, il faut savoir que pendant très longtemps, dans les campagnes urbaines, il n'y avait pas beaucoup d'activités proposées le dimanche. Donc le football, au-delà du sport, c'était aussi un lieu de rassemblement pour les familles où on rencontrait les gens du village et on parlait de tout et de rien.
Qu'est-ce qui vous a rendu le plus fier dans ce livre ?
Bah déjà d'avoir été au bout du projet, parce que j'avais jamais fait ça auparavant, donc c'était comme un défi. Je savais pas trop où j'allais. Le plus fier, c'est surtout, la plus grande satisfaction en tout cas, c'est d'avoir rencontré vraiment des gens passionnés. J'ai fait des super rencontres dans les clubs avec des gens qui ont consacré 30 ou 40 ans de leur vie à leur association et qui étaient vraiment ravis d'en parler. Et puis sur les premiers retours que j'ai de l'ouvrage, ils sont vraiment très contents du travail qui a été fait.
Et alors, où on peut acheter votre livre ?
On peut trouver le livre dans la plupart des librairies vendéennes. Et puis également sur le site de l'éditeur, le CVRH, le Centre Vendéen de Recherche Historique.
Mathieu Degnaud, donc, qui était à ton micro, Nicolas, pour nous raconter un siècle de football vendéen, un livre qu'on vous conseille fortement d'acheter. Voilà, c'est aussi notre histoire, finalement, qui est racontée dans ce livre. Bon, vous en avez l'habitude maintenant, depuis le début d'année, sur le Sud Vendée Sport. On consacre toujours une page au Vendée Globe. Le Vendée Globe, on rappelle qu'il prendra départ au début du mois de novembre, au Sable d'Olonne. Et aujourd'hui, eh bien, on n'a pas un skipper, mais on a une skippeuse et un skipper. Vous allez donc pouvoir entendre leur ressenti avec notamment d'abord Justine Métro, skippeuse suisse pour l'IMOCA Teamwork.
Sud Vendée Sport, l'invité.
Justine Métro, vous vous apprêtez à participer à votre premier Vendée Globe sur un bateau Teamwork. Vous êtes suisse à 7 mois de ce départ du Vendée Globe. Dans quel état d'esprit vous êtes ? On en est où là dans la préparation ?
Alors, pour l'instant, je suis dans un bon état d'esprit. C'est vrai que dans la préparation, on a remis les bateaux à l'eau il y a quelques semaines. Ça a été un peu dans tout le timing, tous dans le même timing pour tous les concurrents. Quelques semaines d'entraînement. Et puis là, on s'apprête à partir pour la première transat de l'année, donc la transat CIC, qui part dimanche prochain. Donc pour l'instant, en tout cas personnellement, je suis concentrée sur cette échéance, essayer d'être bien prête personnellement pour ça, et puis que le bateau soit bien prêt aussi pour partir traverser l'Atlantique.
Alors le bateau, justement, c'est l'ancien Charal qui avait notamment été utilisé par Jérémy Bayou lors du dernier Vendée Globe. Ça reste un bateau donc moderne avec les foils et tout ce qui s'ensuit.
Oui, complètement. C'est vrai que c'est le bateau Charal 1 que Jérémy a utilisé pour le dernier Vendée Globe. C'est un bateau qui était super bien préparé par son équipe quand on l'a récupéré en 2022 et puis qu'on a continué de faire évoluer. Donc cette année, on a installé une nouvelle paire de foils qui nous permet vraiment de remettre le bateau au bout du jour. Donc voilà, c'était déjà un bon bateau à la base. On a eu la chance de pouvoir en plus l'optimiser. Donc c'est un bateau qui reste compétitif, en tout cas avec lequel on arrive normalement à finir en tout cas dans les 10 premiers concurrents.
Alors c'est votre premier Vendée Globe. Vous faites partie des bisous. Dans quel justement quels sont les moyens pour se préparer? Parce que finalement partir comme ça sur 3 mois en mer, c'est difficile de prévoir ça à l'entraînement.
Ben oui, complètement. C'est vrai que ça reste l'inconnu sur une préparation de Vendée Globe, parce qu'on sait qu'on n'a pas moyen d'aller faire un Vendée Globe d'entraînement, si on veut, pour pouvoir se préparer. Moi, j'ai jamais participé. Par contre, j'ai eu la chance l'année dernière de participer au Tour du Monde en équipage, donc à The Ocean Race, qui se courait aussi en IMOCA, donc sur les mêmes bateaux que ceux avec lesquels on fait le Vendée Globe. Et par contre, on était un équipage de 4 marins à bord. Donc c'est un Tour du Monde avec escale, mais voilà, ça m'a permis quand même de passer les différents caps à bord du bateau, d'aller naviguer dans les mers du Sud sur un bateau quasi identique au mien. Donc voilà, toute cette expérience engrangée, c'était une étape importante. Et puis après, au-delà de ce Tour du Monde, on se prépare en participant notamment justement à des courses transatlantiques, en s'entraînant avec nos concurrents. Mais voilà, c'est vrai que c'est la dimension du Vendée Globe, où on sait qu'on va passer à peu près 80 jours en mer. Elle est difficile à vraiment appréhender. C'est ce qui fait aussi, je pense, l'attrait pour cette course-là et pour les marins et pour le grand public.
Alors, parmi les 40 participants, justement, vous faites partie des 6 participantes avec des navigatrices expérimentées qui ont déjà fait le Vendée Globe plusieurs fois, comme Samantha Davis, Clarisse Kremer. Vous avez pu échanger avec elle, notamment ?
Oui, j'ai pu échanger avec elle. Moi, c'est vrai que je suis plutôt proche de Samantha, avec qui j'ai navigué en équipage, et puis avec Isabelle Diosquet. Voilà, il y a une bonne entente entre les en général, et les concurrentes, donc il peut y avoir de l'échange. Après, au-delà de ça, c'est vrai que moi, mon projet, il est hébergé dans l'écurie de Jérémy Bayou, donc chez Bayou Racing. Et voilà, je peux aussi faire appel à lui si j'ai des questions sur la manière de gérer le Vendée Globe et puis de préparer un bateau qui connais en plus très bien.
On l'a dit en préambule, vous êtes suisse. Alors, vous avez pu débuter justement dans votre pays. Il y a le lac Léman notamment. On peut s'y commencer la voile comme ça, la course au large sur un lac comme le lac Léman.
C'est vrai qu'on nous pose souvent cette question. C'est vrai qu'en Suisse, on habite sur les lacs, on n'est pas loin des plans d'eau français, on n'est pas loin de la Méditerranée, on peut dire assez facilement naviguer en Atlantique aussi. Et puis historiquement, il y a toujours eu un attrait pour la course au large, je pense, de la part des marins suisses et du public suisse. C'est vrai que le lac Léman, c'est un point de départ, on peut apprendre à naviguer, à savoir apprendre comment fonctionne un bateau, comment est-il de faire aller vite. Et puis après, pour aller chercher la dimension maritime, il faut aller sur les océans, sur les mers. Mais voilà, c'est un bon point de départ. Et puis, il y a aussi quelques courses sur le lac, comme la 30e année en solitaire, où on fait un tour du lac en solitaire, le Bol d'Or, ou les 5 jours du Léman, qui sont des petites courses qui permettent, même si c'est à toute petite échelle, d'aller faire de l'expadrilli ou du solitaire. Et puis, c'est une première année, une première idée de est-ce que ça nous plaît, ce genre de course un peu plus, en expadrilli et un peu plus en mode endurance.
Christian, qui est avec nous, a une question pour vous.
Bonjour Justine, j'aimerais connaître un petit peu les coulisses de votre préparation avec votre staff. Vous êtes accompagné au niveau préparation physique, préparation mentale, peut-être sur ce futur Vendée Globe.
Oui, bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui tous les skippers préparent au mieux à ces différents niveaux. Je dirais le premier point, c'est qu'on a une grosse équipe technique déjà autour de nous qui s'occupe de préparer le bateau et de faire qu'il soit en ordre de marche et qu'il soit le plus optimisé possible pour les entraînements et pour les courses. Donc, autour de moi, j'ai une dizaine de personnes pour ça, donc, en termes d'équipe technique, de management, de logistique. Donc ça, c'est la grosse partie de nos projets. Et puis après, au-delà de ça, on fait de la préparation mentale. Moi, je travaille avec un psychologue du sport depuis une bonne dizaine d'années. Donc voilà, il y a vraiment un suivi sur la durée. On fait de la préparation aussi à côté avec des coachs particuliers, on peut travailler aussi la nutrition. C'est les points principaux sur lesquels on travaille pour se préparer au mieux pour le Vendée Globe et pour les autres courses auxquelles on participe en amont.
Et en termes de calendrier, ça vous représente à peu près des journées de combien d'activités en heure par jour pour cet entraînement?
Par jour, je dirais du sport, on fait à peu près 4 séances par semaine. Ça dépend de sur une semaine, une fois que le bateau est à l'eau, généralement on arrive à naviguer peut-être 2 jours, 2 ou 3 jours, parce qu'après il faut que le bateau il soit au port pour pouvoir être suivi techniquement, pour que la maintenance puisse être faite, pour que la préparation puisse se faire aussi. Et puis la préparation mentale, pour moi ça se fait plus au coup par coup, avant les échéances, et je pense que c'est chaque skipper qui gère un peu à sa manière selon ses besoins.
Alors pour terminer, Justine, c'est votre premier Vendée Globe, l'objectif c'est sûrement de le terminer, mais est-ce que vous avez des ambitions en termes de classement?
Alors c'est vrai que oui, l'objectif bien sûr c'est de terminer. C'est vrai que pour pouvoir performer il faut déjà arriver au bout de la course, et on sait que sur un Vendée Globe c'est pas simple, c'est vraiment une grosse course d'endurance et sur laquelle il peut se passer plein de choses. Et puis après c'est vrai qu'au terme de résultats, moi j'ai jamais cité d'objectif de résultat, je travaille plutôt en termes d'objectifs de travail, d'objectifs de performance, dans le mode comment j'ai envie de naviguer, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec mon bateau, comment j'ai envie de me comporter. Et puis voilà, je sais que si je respecte ces points-là, et ben en fait le résultat il va venir de soi. Et ça permet de pas se faire polluer par un résultat qui parfois nous glisse des mains, mais par contre de plus se concentrer sur la manière de faire les choses, et moi je sais que c'est la manière qui me convient.
Eh bien, merci beaucoup Justine Métron, on va vous souhaiter bon courage dans votre préparation. On rappelle que vous êtes skippeuse suisse sur le bateau Imoca Teamwork. Merci, bon courage.
Merci à vous.
D'une skippeuse à un skipper, Sébastien Simon également est dans la préparation de son Vendée Globe. Sébastien Simon qui a une particularité, il est vendéen et il est sur un bateau qui a un sponsor vendéen, le groupe Dubreuil. Vous êtes un petit peu notre porte-étendard, Sébastien. Alors il y en a d'autres des Vendéens, mais vous faites partie de nos porte-étendards sur ce Vendée Globe.
Oui, peut-être, effectivement. Je suis un peu né avec le Vendée Globe, puisque la première arrivée était en 1990, donc l'année de ma naissance. Donc pour moi, c'était un rêve d'en faire partie. Et puis, c'est vrai que j'ai toujours été un peu étonné de jamais voir de Vendéens natifs participer à cette course. Ce sera ma deuxième participation et j'espère que cette fois, ce sera la bonne.
Oui, vous le dites, deuxième participation, ça avait été plus compliqué en 2020 avec un abandon assez tôt dans la course.
Un abandon dans les mers du Sud, effectivement, alors que j'étais en quatrième position après avoir participé au sauvetage du skipper de PRB. Mmh. Donc ça a été forcément une expérience douloureuse, mais aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir repartir avec un nouveau partenaire, le groupe Dubreuil, et voilà, c'est pour mon plus grand bonheur. C'est un projet qui s'est lancé il y a peu de temps, il y a 7 ou 8 mois maintenant, et aujourd'hui on met tous nos efforts pour l'objectif qui est l'objectif principal de la saison, qui est celui du Vendée Globe.
Alors c'est un petit peu notre question rituelle dans cette émission. Là, on est à 7 mois du départ. Où on en est dans la préparation ?
On en est qu'il reste beaucoup de travail. 7 mois, ça paraît long, mais pour nous, c'est quasiment demain. C'est vrai que la course est déjà plus ou moins engagée, en tout cas sur la partie technique. Là, on s'apprête à partir sur 2 transatlantiques qui sont pas les plus simples. En Atlantique Nord, avec des vents contraires pour l'aller. Voilà, on vient de remettre le bateau à l'eau. Il a des toutes nouvelles couleurs. On a beaucoup travaillé sur l'adaptation du bateau pour le solitaire et puis pour un tour du monde d'une manière générale. Voilà, on a beaucoup travaillé sur l'ergonomie, l'électronique et autres. Donc maintenant, il reste à éprouver tout ça. On va essayer de monter crescendo en puissance, mais en tout cas, le but pour nous aujourd'hui de ces 2 premières transatlantiques, c'est d'aller au bout et d'essayer de continuer notre apprentissage en vue du Vendée Globe.
Oui, voilà, c'est 2 transatlantiques, hein, c'est la Transat CIC qui partira de l'Orient le 28 avril, et puis le 29 mai, une traversée dans l'autre sens, entre New York et les Sables d'Olonne. Ça va être aussi le moyen de, j'allais dire entre guillemets, tester le bateau. Le mot est peut-être pas bien adapté, mais c'est là où on pourra régler justement les derniers soucis.
Le mot est plutôt bien adapté, effectivement. On souhaite tester le bateau et éprouver tout ce qu'on a pu mettre en place pendant ce chantier hivernal avec toute l'équipe. Voilà, on a énormément travaillé et maintenant il reste à peaufiner un petit peu les derniers détails. Donc ça parle de fiabilité, ça parle de performance, ça parle de beaucoup de domaines dans lesquels il faut effectivement éprouver le bateau, et je pense que ces 2 premières transats nous permettront d'évaluer un peu tout ça dans des conditions qui seront vraiment réelles.
Alors, on parle aussi un petit peu peut-être d'ambition. L'ambition, sûrement, quand on a raté, j'ai envie de dire, la première fois, c'est peut-être aussi de vouloir le finir. Mais est-ce que vous essayez aussi de vous fixer des ambitions en termes de classement en finale ?
Pas aujourd'hui, s'agissant du Vendée Globe. Je pense que déjà prendre le départ est une belle victoire. Franchir la ligne d'arrivée est un bel exploit. Et le gagner, c'est quelque chose d'incroyable, fabuleux. Mmh. Enfin, j'ai pas vraiment de mots. Si déjà on termine le Vendée Globe, j'en serais pleinement satisfait et heureux. Voilà, je sais que quelques années plus tard, je pourrais commencer à regarder derrière mon épaule en me disant que j'ai eu la chance de réaliser tous mes rêves. Maintenant, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui me trotte en tête. On est très probablement pas prêt pour cette édition, mais peut-être en 2028, en tout cas je l'espère, avec le groupe Dubreuil, on pourra essayer d'aller chercher une victoire sur un Vendée Globe.
Et puis, enfin, ouais, y a 40 skippers au départ et une concurrence assez hors norme entre les bateaux récents ultra modernes et des skippers d'expérience.
Oui, effectivement, le niveau ne cesse de progresser. Après le Vendée Globe, il faut savoir que c'est une aventure avant tout. J'ai appris ça lors de ma première expérience. Hein. J'étais vraiment là pour le côté sportif, mais au final, l'aventure est là et on se fait prendre au jeu. On n'a pas le choix. Voilà, c'est une course pleine d'inattendus. À chaque fois que j'ai essayé de jouer au jeu des pronostics avant de faire partie de cet événement, je me suis toujours trompé, comme quoi cette course réserve énormément de surprises.
Christian, notre chroniqueur, a une question pour vous.
Bonjour. En termes de préparation, on a parlé un petit peu du bateau et à l'humain. Comment on se fait accompagner pour cette préparation et comment, du coup, on se prépare mentalement à ce fameux paramètre de l'inattendu qui arrive sur cette mythique course du Vendée Globe ?
Pour l'expérience, déjà, je dirais, ça joue quand même beaucoup. On sait un peu à quoi s'attendre. Et puis, voilà, on essaie d'anticiper un peu tout ce qui a pu nous arriver par le passé. On essaie de trouver des solutions pour pouvoir rebondir assez facilement, se faciliter la vie. Après, physiquement, c'est aussi une préparation qui est de plus en plus intense. Moi, je sors d'un accident relativement grave, hein, puisque la dernière fois en Atlantique m'a laissé une commotion et une fracture de vertèbre. Il m'a immobilisé pendant 3 mois. Voilà, donc je pense qu'on a su tirer les leçons de tout ce qui s'est passé, qui est aussi dû au progrès technologique de nos bateaux. Hein. Plus les bateaux vont vite et plus les chocs sont violents. Donc la préparation physique fait aussi partie du jeu.
Et vous êtes accompagné psychologiquement justement suite à un peu à ces difficultés qu'il y a eu et l'expérience à fournir, parce que quand on doit repartir, ça doit être quand même une sacrée épreuve en plus pour obtenir une performance avec des objectifs quand même.
Oui, je suis accompagné mentalement, pas psychologiquement, mais effectivement je fais appel à une préparation mentale, alors pas pour essayer de panser les plaies de ma blessure, au contraire, ouais, je dirais que ça fait partie du sport, malheureusement c'est un accident comme pourrait arriver à tout le monde, hein, même en traversant dans la rue. Ça m'a pas traumatisé pour autant, mais effectivement la préparation mentale dans une discipline comme celle-ci, où on joue à plusieurs, à switcher plusieurs casquettes entre celle d'entrepreneur, celle de sportif, celle de voilà de technicien, effectivement, ça nécessite une certaine préparation pour pouvoir ensuite aller en mer avec l'esprit libéré et puis essayer de penser à ce qu'on a à faire et pas à ce qui se passe à terre.
Pour terminer cette interview, Sébastien Simon, alors c'est vrai que vous êtes Vendin et vous avez la particularité en plus d'être des Sables d'Olonne, alors on va faire de la visualisation positive, imaginons la remontée du chenal, vous terminez votre tour du monde dans un peu moins d'un an avec des milliers de personnes sur les côtés, ce serait ce sentiment extraordinaire finalement, un accomplissement finalement.
Oui, tout à fait, alors je fais pas ça pour les personnes, même si je serais très heureux d'être accueilli comme tous les marins du Vendée Globe, évidemment. Mais ce serait un sentiment de satisfaction pour moi d'abord, évidemment, pour ma famille aussi, après toutes ces épreuves traversées et tous ces efforts engagés. Et puis pour mes partenaires, le groupe Dubreuil et sa famille, voilà, je pense que je leur dois bien ça. Et aujourd'hui, on travaille très très dur pour que ça se produise. Voilà, c'est un sport mécanique, il y a une part d'aléatoire très présente, mais en attendant, on essaie de se préparer au mieux pour essayer de diminuer cette partie d'aléatoire et enfin aller jusqu'au bout de l'objectif, c'est-à-dire finir le Vendée Globe.
Eh ben, merci beaucoup Sébastien Simon, on va vous souhaiter bon courage donc dans la préparation de ce Vendée Globe, merci.
Merci beaucoup, bonne journée.
Bon, encore une fois, un Sud Vendée Sport très riche, merci Nicolas, merci Christian.
Ben, merci à toi Antoine.
Merci Antoine.
D'avoir eu aussi ces débats entre nous, très intéressants. Le Sud Vendée Sport revient dans 3 semaines. Merci de nous avoir suivis et on vous dit à très vite sur Digue Radio Sud Vendée.
Toute la journée, vous écoutez Digue Radio sur digueradio.fr.